Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Et bientôt un deuxième vaccin validé par l'Agence européenne du médicament, celui de Moderna, c'est semble-t-il une question d'heure.
Et ça va permettre au gouvernement d'accélérer encore davantage la cadence face aux reproches de lenteur.
Alors que les premiers soignants sont vaccinés depuis aujourd'hui.
Quel est le point commun entre une Maserati, une Citroën, une Jeep ou une Alfa Romeo ? Eh bien tous ces véhicules sont désormais rassemblés au sein d'une même entité après la fusion de PSA et de Fiat Chrysler.
Dans 16 jours, il ne sera plus au pouvoir, pourtant il s'accroche. Didier François nous dira que Donald Trump ne recule devant rien, sauf que cette fois, il a été enregistré.
Et puis, on vous donnera des nouvelles de Damien Séguin, premier skipper handicapé à franchir le mythique Cap Horn. La tendance météo avec Anissa, des gelées matinales pour demain.
Oui, des gelées qui vont se généraliser. Les températures seront négatives quasiment partout demain matin. Il va faire froid avec encore un ciel gris et encore un tout petit peu de neige. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et il n'y aura donc bientôt plus un, mais deux vaccins contre le Covid-19.
Oui, c'est l'annonce du soir après celui de Pfizer et BioNTech. Celui de Moderna arrive dans les prochains jours.
Anne Le Gall, les choses se sont accélérées ces dernières heures.
Oui, cette validation européenne devrait être donnée dans les jours ou dans les heures qui viennent. C'est ce que la nouvelle patronne de l'Agence du médicament, Christelle Ratignier-Carbonneil, indiquait sur notre antenne à la mi-journée. Et la bonne nouvelle, c'est que ce vaccin de l'américain Moderna affiche une efficacité de 94% contre les formes graves de la maladie, comme celui de Pfizer. Il est d'ailleurs basé sur la même technologie de l'ARN messager, c'est-à-dire qu'il contient une instruction génétique qui éduque le système immunitaire contre le coronavirus. Mais ce nouveau vaccin a l'avantage de se conserver à moins 20 degrés au lieu de moins 70 degrés, ce qui facilitera la logistique de transport et de stockage. L'Union européenne a commandé 160 millions de doses de ce vaccin Moderna. La France en recevra 15%, donc 24 millions de doses. De quoi vacciner 12 millions de Français supplémentaires avec deux doses à 28 jours d'intervalle. Si on ajoute ces doses à celles du vaccin Pfizer, cela permettra déjà de protéger au total à terme 35 millions de Français.
Merci Anne Le Gall. Et on n'aura pas trop de deux vaccins pour faire taire les critiques sur la lenteur de la politique vaccinale de la France.
Oui, lenteur qui a conduit Emmanuel Macron à convoquer une réunion en fin d'après-midi à l'Élysée. Le président veut clairement accélérer le tempo. Et c'est déjà le cas, hein, Victor Delande, puisque depuis aujourd'hui, les soignants de plus de 50 ans peuvent bénéficier de l'injection.
Oui, et d'ailleurs, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est déplacé à l'Hôtel Dieu cet après-midi à Paris, où des soignants de plus de 50 ans se faisaient vacciner. Une centaine de médecins et infirmiers avaient déjà reçu la première injection du vaccin Pfizer dès ce week-end. Et le rythme va aller en s'accélérant, comme l'a expliqué le ministre de la Santé.
Ce soir, c'est environ 27 centres qui disposent de vaccins et qui ont pu commencer à vacciner les soignants. D'ici demain soir et mercredi, nous multiplions par 4 le nombre de centres, ce qui fait qu'il y aura une centaine d'hôpitaux qui offriront la vaccination à leurs soignants ainsi qu'aux soignants de ville.
Si on additionne ces vaccinations auprès des soignants et celles dans les EHPAD, la France aura réalisé plusieurs milliers de vaccinations ce soir, assure le ministre de la Santé. Ça va monter en puissance dans les premiers jours, dans les prochains jours, promet-il. Olivier Véran a profité également de cette sortie pour justifier le rythme français, la première semaine de rodage dans les EHPAD. Il a aussi affirmé qu'il fallait absolument prendre le temps pour recueillir le consentement des résidents des maisons de retraite. Procédure qui prend actuellement entre 5 jours et plus de 2 semaines. Procédure très critiquée la semaine dernière pour souligner la lenteur de la campagne de vaccination française.
Merci Victor Delande du service Société d'Europe 1.
Oui, le gouvernement qui met le turbo, on l'a compris, dans sa campagne de vaccination. Il était temps pour Philippe Laurent, le secrétaire général de l'AMF, l'Association des maires de France.
Je crois que le discours du ministre aujourd'hui est tout à fait différent de celui qu'il tenait il y a une semaine. Donc je pense qu'il y a eu en effet une évolution. Il faut, je crois, s'en réjouir. Ça veut dire qu'il a entendu ce que disaient non seulement les élus, un certain nombre de professionnels. Je pense que nous avons la capacité d'aller beaucoup plus vite, en effet, si on mobilise l'ensemble des moyens logistiques dont peuvent disposer notamment les communes. D'ailleurs, nous avions proposé cette démarche d'ores et déjà dès le mois de novembre. On l'a redit au mois de décembre. Ce matin, l'Association des maires de France a publié un nouveau communiqué pour dire la disponibilité des maires à participer et à s'engager dans cette organisation. Bon, il n'y a pas eu de réponse. On a redit au mois de décembre, on redit aujourd'hui. Donc je pense que là, nous avons fait quand même un pas en avant avec les récentes déclarations du ministre et j'espère la réunion cet après-midi autour du président de la République.
Le secrétaire général de l'Association des maires de France, joint pour Europe 1 par Claudia Bertram. Les Britanniques ont commencé à administrer le vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca avec l'université d'Oxford, en plus de celui de Pfizer-BioNTech. La Grande-Bretagne, où la situation est très préoccupante, près de 60 000 cas en 24 heures. Boris Johnson, sous pression, doit s'exprimer ce soir alors que l'Écosse se reconfine, comme au mois de mars avec la fermeture des écoles. Notez que les Pays-Bas lanceront leur campagne de vaccination mercredi seulement, ce seront les tout derniers de l'Union européenne.
La mise en examen à présent de l'un des organisateurs de la fête sauvage qui a rassemblé plus de 2000 personnes à Rennes à l'occasion du Nouvel An.
Mise en examen pour mise en danger d'autrui, le procureur a requis son placement en détention.
Cette fois, c'est officiel, les actionnaires de Fiat Chrysler et de PSA ont donc validé cet après-midi la fusion de leurs deux entités.
Et c'est un mariage qui va donner naissance au quatrième groupe automobile mondial avec plus de 400 000 salariés et des marques emblématiques qui seront rassemblées désormais sous un même nom. Ça s'appellera Stellantis, Aurélien Fleureau.
Oui, et plus de 99% des actionnaires se sont prononcés en faveur de cette fusion. Désormais, le calendrier est connu. Stellantis verra officiellement le jour le samedi 16 janvier prochain pour une entrée en bourse le lundi suivant. Ce groupe vendra près de 9 millions de voitures par an avec une particularité inédite, la présence de 14 marques différentes, Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep ou encore Lancia et Maserati. À la tête de Stellantis, Carlos Tavares, l'actuel patron du groupe PSA. Cette fusion, c'est un succès personnel pour lui. Il devra maintenant trouver les meilleures synergies pour faire exister toutes ces marques. Des synergies estimées à 5 milliards d'euros par an. Cela passera notamment par l'optimisation des plateformes de production. Ces différents modèles permettront de viser la place de leader du marché européen, occupé actuellement par le groupe Volkswagen. À ce stade, toutes les marques seront conservées, relancées pour certaines, comme Alfa Romeo. Pas de fermeture d'usine non plus, engagement pris par les deux groupes avant la fusion. Le défi, eh bien, ce sera d'y parvenir dans un marché automobile qui a connu une année catastrophique avec des ventes en baisse de plus de 25%.
Précision signée Aurélien Fleureau du service Éco d'Europe 1. Le trafic transmanche a repris en douceur aujourd'hui à Calais après le Brexit et les fêtes, sans ruée des transporteurs ni problème particulier dû au rétablissement des formalités douanières.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h07, la suite du journal avec Isabelle Millet. Et on va parler de ce document à peine croyable, la retranscription mot à mot d'un appel téléphonique de Donald Trump qui exige que le responsable des élections dans l'État de Géorgie trafique les résultats du vote pour le déclarer vainqueur.
Et on en parle avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François, comme tous les soirs dans ce journal. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Didier, ces enregistrements ont été publiés par le Washington Post et ils révèlent en fait l'extrême brutalité des méthodes de Trump qui manie à la fois les promesses et les menaces.
Absolument, un véritable comportement de mafieux. Alors Trump appelle samedi matin Brad Raffensperger, c'est le patron de la commission électorale de Géorgie, un État remporté par Joe Biden lors du scrutin du 3 novembre avec 11 779 voix d'avance. Mais qu'à cela ne tienne, explique le président à son interlocuteur, il suffit, lui dit-il, de refaire les comptes et de trouver, ce sont les mots du président, hein, 11 780 voix. Une de plus que ce que nous avons, précise Trump. Ce qui n'a rien de répréhensible, jure-t-il, puisque nous avons gagné cet État. Réponse embarrassée de Brad Raffensperger, qui, bien que républicain, rappelle au président que quand même deux recomptages ont été réalisés en plus du premier dépouillement et que tous les décomptes le donnent perdant. « Des morts ont voté !» rétorque Donald Trump. « Les machines électorales ont été sabotées !» Il s'énerve, dites-moi Brad, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi, je pense que vous devriez réexaminer l'élection, mais avec des gens qui veulent trouver des réponses, pas des gens qui ne cherchent pas de solution. Et avant de terminer, il menace. Si vous ne retrouvez pas les milliers de bulletins détruits, vous prenez un grand risque, vous serez passible de poursuites. Et c'est ça qui a poussé Brad Raffensperger à rendre public les bandes de cette conversation téléphonique.
Et la conversation a duré quasiment une heure d'ailleurs.
Absolument.
Alors, cet épisode montre que Donald Trump ira jusqu'au bout dans sa bataille pour invalider l'élection de Joe Biden.
Absolument. Alors, il ne peut plus empêcher l'intronisation de son rival dans un peu plus de deux semaines, le 20 janvier prochain, mais il veut absolument jeter un doute sur la légitimité de sa victoire. C'est également la raison pour laquelle il a obtenu de 12 sénateurs républicains qu'il refuse formellement de certifier l'élection de Joe Biden après-demain. Car Donald Trump mène désormais un combat pour prendre la tête de l'opposition en s'appuyant sur sa base électorale la plus radicale contre la majorité des élus et de l'appareil du Parti républicain qui plaide pour une politique beaucoup plus pragmatique. Son objectif, c'est de se représenter en 2024.
Merci Didier Loye de Didier François, tous les soirs dans ce journal de 19h. Dans l'actualité également, la justice britannique refuse la demande d'extradition de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, en raison de son état de santé, dit-elle, et des risques élevés de suicide.
L'hommage national aux trois militaires français tués la semaine dernière au Mali. La cérémonie s'est tenue aux Invalides cet après-midi.
Deux autres militaires, on le rappelle, ont trouvé la mort ce week-end dans des circonstances similaires lors de l'explosion d'un engin artisanal.
Et à noter que le Niger a décrété 3 jours de deuil national et va renforcer le dispositif sécuritaire dans la zone proche de la frontière malienne après l'attaque samedi qui a fait 100 morts. Le Vendée Globe, Yannick Bestaven accentue son avance en tête sur son premier poursuivant, Charlie Dalin. Ils sont désormais donc 5 skippers à avoir franchi le fameux Cap Horn.
Et oui, et à entamer la remontée de l'Atlantique. Yannick Bestaven, donc Charlie Dalin, mais aussi Thomas Ruyant, Benjamin Dutreux et Damien Seguin. Damien Seguin qui est le premier navigateur handicapé engagé dans ce Vendée Globe. On vous en a déjà parlé. Hein. Autant dire, Cyril de la Morinerie, que pour lui, passer le Cap Horn, pour lui peut-être plus encore que pour les autres, c'est un exploit.
Oui, et c'est pourquoi, pour fêter son premier Cap Horn, le skipper de 41 ans a débouché le champagne en pleine nuit et en a versé un peu partout autour de lui.
Allez, alors un peu pour le bateau, un peu pour l'océan, et un petit coup pour moi aussi.
Après 56 jours de course, Damien Seguin a donc franchi cette étape mythique dans une mer très agitée, une véritable prouesse. Imaginez le skipper sur son monocoque Groupe Apicil, est né sans main gauche. En plus, il s'est blessé en début de course, au bras avec un couteau. Il a eu des soucis de pilote automatique. Fort logiquement, sa joie était immense quand il s'est retrouvé à quelques encablures de la Terre de Feu.
Eh ben nous y voilà les amis, mon premier Cap Horn, un truc de fou quoi. J'en reviens à peine, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tout à l'heure en y repensant. Il y a eu tellement d'efforts pour en arriver là, c'est tellement dur. Là, il fait pas beau, il fait froid, mais voilà, j'y suis arrivé. C'est top, le chemin est encore long, mais on va fêter ça.
Damien Seguin, c'est aussi 2 médailles d'or et 1 d'argent aux Jeux Paralympiques, un vrai battant, qui s'était vu refuser l'accès à la solitaire du Figaro en 2005 en raison de son handicap, avant finalement d'être accepté lors de l'édition suivante. Le navigateur originaire de Briançon a bénéficié des conseils du doyen Jean Le Cam. Et désormais 4e, Damien Seguin espère atteindre les Sables d'Olonne dans 1 mois environ.
Chapeau à lui et à tous les autres. Merci Cyril de la Marinerie.
C'est vraiment terrible ce Cap Horn. Hein. Je ne suis pas navigateur, oui, mais...
Enfin, moi, j'y suis jamais allé, j'aimerais bien, pourquoi pas. Mais tous les marins que l'on a entendus, que Corinne Boulou, qui suit le Vendée Globe pour nous, a interrogé, vous disent que c'est un endroit incroyable et très dangereux, bien évidemment. On dit que c'est le cimetière, un cimetière de marins. Il y a beaucoup de bateaux qui se sont échoués.
Merci Cyril, merci Isabelle. On vous retrouve demain à partir de 18h. Un coup d'œil au temps avec Anissa qui nous a retrouvés pour une météo très très hivernale demain au programme.
Oui, la neige sera là demain. Alors, elle sera un petit peu plus discrète qu'aujourd'hui. Nous aurons toujours sur la moitié nord des flocons en plaine, des flocons qui ne tiendront pas au sol. Sur les Alpes, les Pyrénées et le Massif central, il neige dès 500 mètres d'altitude. Sur les côtes de la Manche, c'est le vent du nord-est qui souffle et qui renforce cette impression hivernale, hein, jusqu'à 70 km/h en rafale. Nous aurons toujours des averses qui rythment toute la journée sur les côtes de la Manche. Dans le sud, le soleil revient, bonne nouvelle, au bord de la Méditerranée, sauf sur la côte d'Azur, où là, les averses sont au rendez-vous sur le littoral. Demain matin, vous le disiez, Julien, il va faire froid, des températures négatives quasiment
très,
partout.
Très, très froid, si j'ai bien compris.
Moins 7 à Gap, moins 6 à Pontarlier, moins 4 à Aurillac et Rodez, moins 3 à Saint-Étienne, moins 2 à Albi et Limoges. On a quasiment du négatif partout, moins 1 à Lyon et Avignon, 0 pour Marseille et Strasbourg, 1 petit degré à Paris et 3 à Nice et Dunkerque.
Un petit degré à Paris le matin ou l'après-midi ?
Le matin, l'après-midi, il fera 4 degrés. C'est pas non plus, ça va pas être une folie entre
le matin.
Je pense
à mon vélo le matin, un peu égoïstement. Merci.
Bah, gants, bonnet, écharpe, tout, hein,
merci,
Julien.
Merci Anissa, on vous retrouve demain à partir de 18h.
Europe 1, écoutez le monde changer.